Et coucou à vous toutes et à vous tous, vous êtes bien sur la radio préférée de l'Entre-deux-Mers 98.4. Bonjour Aiguillon, bonjour Bergerac, bonjour Marmande, bonjour Laréole, bonjour Sauveterre de Guyonne, bonjour Créon, bonjour Libourne, Saint-Émilion, toute la rive droite de Bordeaux, salut. On voudrait que vous passiez un excellent week-end. C'est vrai qu'on est à la moitié du mois de mai, et en mai fais ce qu'il te plaît. Je voudrais saluer tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les papis, les mamies, les tontons, les tatas, les cousines, les cousins, les frères, les sœurs, les papas, les mamans, tout le monde. Aujourd'hui, j'ai en invité Bernard Bouchon. Bernard Bouchon qui est le président nouvellement élu de la société hippique de la Réole. Bernard, bonjour. Alors, bonjour. Je découvre qu'il y a un président de la société hippique de la Réole. Je ne sais pas qu'il y avait un club hippique à la Réole. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus et que tu nous expliques quelles sont tes fonctions. Il y a bien entendu dans ce studio Armel qui va nous parler tout à l'heure de l'agneau de Pauillac. Et puis il y a notre petite Zoé qui est là, hein, Esther, qui est en train de filmer pour mettre ça sur Facebook en direct. Bernard, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce que c'est qu'un club hippique, à quoi ça sert, qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on y fait, et depuis quand tu es président de cette association ?
Alors bonjour à tous. Ce n'est pas un club hippique, c'est une société hippique.
Ah, alors explique-nous la différence.
Une société hippique organise des courses de chevaux avec organisation de Paris Mutuel Hippodrome, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de jouer sur l'hippodrome le jour des courses. Contrairement à une société hippique, qui est simplement une société qui organise des concours hippiques et pour lequel il n'y a aucun enjeu, mais qui est simplement une activité purement sportive.
D'accord. Donc on ne parle pas du Bouscat, on ne parle pas de la Teste qui sont...
On ne parle pas du Bouscat, on ne parle pas de la Teste, mais c'est exactement la même configuration, à savoir que ce sont des sociétés hippiques sur lesquelles des enjeux paris mutuels sont organisés.
D'accord.
Voilà. Alors il y avait dans le temps, il y a on va dire un demi-siècle, il y avait 9 sociétés en Gironde, il n'en reste plus que 4 ou 5.
D'accord, donc tu as la présidence d'une des 4 ou 5.
Et j'ai la présidence de la Réole, qui est la plus petite de toutes, puisqu'après il y a Langon, qui a gardé une société hippique, il y a la Teste, et il y a le Bouscat. Toutes les autres ont disparu, il y avait une société à Bazas, il y avait une société à Sainte-Foy, il y avait une société à Libourne, il y avait une société à Castille-la-Bataille, il y avait une société à l'Espard, elles ont toutes disparu les unes après les autres, sans doute par la disparition peu à peu du tissu social de notre ruralité.
Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est du bénévolat et que ça prend du temps et que c'est pas évident de trouver des bénévoles qui veulent bien s'engager dans la vie associative aujourd'hui.
C'est une réalité absolue puisque sur le cas particulier de la Réole, il est une vérité, c'est que malheureusement, cette société était presque encline à disparaître. Moi-même, j'étais dans cette société depuis 40 ans, mais j'étais surtout vacataire, c'est-à-dire prestataire de service. Et j'ai repris cette société uniquement parce qu'elle était en perdition, elle allait être en fusion avec une autre société de notre département. Et j'ai trouvé quelques amis, dont Jean-Marie Darmian, qui ont bien voulu, avec moi, reprendre cette structure afin que le tissu associatif local sur la Réole ne perde pas une de ses associations.
Et nous saluons Jean-Marie Darmian et son frère Alain, qui habite du côté de Sadirac et est l'ancien maire de Créon pendant plus de 30 ans.
Voilà, donc j'ai un trésorier qui est, je dirais, une pointure départementale et sur lequel je peux compter en tout état de cause pour participer activement à toutes les activités de la société. Et bien entendu, pour gérer le côté financier, puisqu'il est mon trésorier de la société.
Tu peux avoir confiance, il n'y a aucun problème.
Oh là, je n'ai aucun doute.
Alors, crois que tu es une des plus anciennes de la Réole. Hein.
Aujourd'hui, oui, je suis un des plus anciens. Fait.
Non, non, la société hippique. Hein.
Oui, 1876. Oui,
oui. C'est ça.
1876 a répondu Esther. Elle se porte bien, elle est, c'est une jeune fille. 1876, c'était juste après le phylloxéra de 1863 voilà. Et la fin de la guerre de 75 avec l'Allemagne.
Est-ce qu'on sera encore à la société quand on fêtera les 150 ans? Je ne sais pas, mais on l'espère en tout cas.
Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Donc tu es propriétaire de chevaux?
Non, je ne suis pas propriétaire de chevaux. J'ai eu des chevaux et j'ai eu une licence amateur il y a quelques années. Après quoi, je suis passé commissaire juge aux allures. Puisqu'en fait, les chevaux qui font du trot sont jugés pendant la course sur leur compétence à ne produire que du trot et sont disqualifiés lorsqu'ils produisent des allures autres que le trot.
D'accord. Combien d'adhérents à cette association ?
Alors, on est une petite quinzaine sur l'organisation des courses, puisqu'il n'y a qu'une réunion par an, en tant que conseil d'administration. Après, bien entendu, nous avons quelques bénévoles qui viennent nous donner un coup de main quelques jours avant l'organisation de la manifestation. Et puis j'aurais presque envie de profiter de cette occasion pour faire un appel, parce que personnellement, je suis d'un âge avancé, j'ai pris la société pour qu'elle perdure. Mais mon souhait le plus vif, c'est qu'effectivement, cette société perdure. Et pour qu'elle perdure, nous avons besoin de jeunes. Donc je lance un appel à tous les gens qui s'intéressent au cheval et qui voudraient rentrer à la société hippique de la Réole, afin, d'un jour ou l'autre, et très rapidement, assurer la continuité des courses à la Réole.
Tu es dans la transmission, en fait.
Absolument.
Et ça, c'est bien, c'est-à-dire de passer le témoin à la pépinière de demain.
Ah, je suis complètement déjà disponible pour passer le témoin.
Donc, il y a combien de courses, combien de manifestations sont
organisées? Il n'y a qu'une manifestation par an qui a lieu le jeudi de l'Ascension depuis, peut-être depuis la création de l'hippodrome et de la Société des courses de la Réole.
Combien de participants généralement?
On est autour d'une centaine de participants le jour de la manifestation. Et il faut entendre que, bon, si la Réole est un hippodrome de troisième catégorie, c'est-à-dire qu'on court des catégories assez peu relevées, il en demeure pas moins que pour que les courses aient le roi qu'elles ont en France, il est nécessaire qu'il y ait des hippodromes de petite catégorie pour faire débuter des chevaux, parce que les chevaux qui n'ont pas d'argent ont besoin d'aller sur ces petits hippodromes. C'est comme le football, s'il y a une pépinière de joueurs de football dans les communes rurales, il y en a certains qui se révèlent et qui vont au niveau supérieur. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Il faut qu'ils puissent courir des basses catégories pour envisager de courir un jour au Bouscat et pourquoi pas à Vincennes après. Voilà.
D'accord, très bien. Donc, une centaine de participants. Quel est le coût annuel de l'adhésion à l'association? Est-ce qu'il y a une
remise? Nous avons une adhésion qui est totalement symbolique, puisqu'on demande une carte de sociétaire pour 10 euros. C'est du pur symbole. En fait, l'adhésion, elle est surtout dans la tête. Il faut que des gens aient envie de participer, envie d'être des bénévoles, parce que le tissu associatif du monde des courses a pour principale particularité de survivre uniquement que grâce aux bénévolats.
D'accord. Alors, il est où cet hippodrome?
Alors, la particularité et l'avantage de la Société des courses de la Réole, c'est que ça fait déjà plusieurs décennies qu'il est la propriété de la mairie et que la mairie a toujours été partenaire de la Société des courses. Partenariat qui est d'ailleurs sur le site partagé avec une autre association, le motoclub. Mais ça permet...
C'est pas les mêmes chevaux, les motos.
Non, les chevaux vapeurs sont sans doute très différents, mais il y a aujourd'hui, avec le motoclub, une excellente collaboration et une entente qui fait que tous les ans, et sur toutes les manifestations, il y a une volonté de la société hippique et du motoclub de partager le site et de faire au mieux pour que le site soit exploité de la meilleure des manières.
D'accord. Donc c'est bientôt l'Ascension.
Nous sommes proches de l'Ascension puisque c'est le 26 mai.
Est-ce qu'il y a déjà des inscrits? Oui, je le pense.
Alors, il y a déjà des inscrits pour les courses à la Réole. Mais bon, ça, les inscriptions se font sur le plan national, puisqu'en fait, c'est une organisation qui est une organisation nationale. Et les courses à la Réole découlent d'une organisation globale.
Donc, les participants, les sportifs qui viennent, peuvent venir de toute la France?
Absolument. Tous les ans, le jour de l'ascension à la Réole, comme je l'ai déjà dit, c'est des courses de basse catégorie, mais même des chevaux qui arrivent de régions où il y a beaucoup de courses et où il se fait plus d'élevage que par chez nous, par exemple la Mayenne ou la Bretagne ou la Normandie. Il y a des gens qui descendent de Mayenne, de Bretagne ou de Normandie parce qu'ils ont besoin de courir ces basses catégories, ils n'ont pas peur de faire les kilomètres pour courir ces basses catégories et essayer de sauver leurs chevaux dans le domaine de la compétition.
D'accord, donc c'est un cumul de points qui se fait tout au long des semaines en fonction des compétitions auxquelles ils participent.
Les points s'appellent de l'argent, c'est les sommes gagnées.
Oui, c'est ça, c'est de l'argent. Pour faire monter ton cheval, il faut que tu partes depuis la base puis monter les échelons.
D'accord.
Et pour ça, moi je me rappelle avoir vu un driver très célèbre qui a eu je ne sais pas combien de ses décimes qui dort. Je crois qu'il en a eu 7 ou 8.
Oui, il s'agit de Richard William de Lecher.
Voilà, qui vient courir à la Réole avec ce qu'on appelle des canassons au départ.
D'accord.
Et pour essayer de lui faire gagner de l'argent pour qu'il puisse le présenter après dans les grandes... Mais ils sont obligés de partir sur des bases très basses.
Je comprends. Voilà.
Et il faut donc des hippodromes comme à la Réole.
C'est ça, la pépinière des bars de la base, c'est-à-dire des hippodromes de basse catégorie.
D'accord, ben c'est très, très instructif tout cela. Et quelqu'un qui aime les chevaux, c'est quelqu'un qui aime les hommes.
Ça peut être effectivement dans ce cadre de figure, quand on aime la nature, les hommes en général. Et c'est le plaisir de la rencontre se fait sur les hippodromes, comme pour tous ceux qui aiment le contact.
On dit que c'est le meilleur ami de l'homme ?
C'est vrai.
C'est vrai. Il m'est arrivé une histoire un petit peu surprenante. Il y a 3-4 mois, au château de Cassard, à Blaye, j'étais en prestation pour TF1 et Téléshopping, et toute l'équipe de Téléshopping salue les auditeurs de la radio de l'Entre-deux-Mers, 98.4. Et il y avait deux chevaux qui étaient présents sur la manifestation pour faire des petites balades pour les enfants, bref. Et un des chevaux, m'a regardé. Je suis allé vers lui, c'était un mâle qui avait une douzaine d'années, qui s'appelle Voici, et je me suis approché de lui, je ne sais pas pourquoi, parce que le cheval, ça fait quand même un peu impressionnant, ça fait 600-700 kilos, on a toujours un peu peur. Et ce cheval est venu près de moi, il a mis sa tête dans mes mains, et il s'est endormi spontanément. Et il était collé contre moi, j'en ai eu des frissons, j'avais les poils qui se levaient, je n'ai pas compris ce qui se passait. On a fait des photos instantanément, parce que c'était quelque chose d'assez inattendu. Comment un cheval peut-il venir comme ça près d'une personne qu'il ne connaît pas ? Moi, je ne l'avais jamais vu. Il est venu tout en douceur, tout en gentillesse, les oreilles bien droites. Et j'ai mis une main comme ceci, il a mis sa tête, et boum, sa tête, et il s'est endormi. J'avoue que je ne comprends pas ce comportement. Et je vais de temps en temps en Blaye pour le voir, parce que j'ai appris que ce cheval était malade et qu'il avait une tumeur, et il est en train d'être soigné pour cette tumeur. C'est un ancien cheval de Chantilly qui a été réformé. Il a gagné une course, je crois, un tiercé, il y a 7 ou 8 ans. Et il a été réformé, c'est une jeune gamine qui s'en occupe maintenant, qui est la propriétaire de ce cheval. Le comportement d'un cheval est imposant quand même, quand on n'a pas l'habitude. Comment expliquer ce phénomène ?
Bon, je pense qu'il va trouver. Il s'est dit, c'est beau, c'est un bon.
Au-delà de c'est beau et c'est un bon, je crois qu'il n'y a que les gens qui ont la passion du cheval qui peuvent comprendre cet esprit, enfin, cette considération qui est sans doute d'abord une question de feeling. Et puis, au-delà du feeling, quand on parle de l'osmose qu'il peut y avoir entre un cavalier et son animal, c'est sans aucun doute parce qu'il y a, avec le cheval, l'homme peut avoir une complicité que nul autre que les passionnés de l'activité ne peuvent définir.
Pierre Durand et Japloux.
Voilà, par exemple.
J'ai bien connu Pierre Durand. C'est vrai que ce garçon avait quelque chose d'attirant personnellement. Oui. Quand on le voyait, quand on le rencontrait, on avait envie de lui serrer la main. Et je peux comprendre que son cheval Japlou, qui est maintenant au paradis des chevaux, eh bien, ait pu avoir ce comportement. Mais moi, généralement,
je suis d'autant plus convaincu que personnellement, j'ai connu le naisseur de Japlou, qui était Henri Delage, qui était un homme de cheval remarquable et pour lequel j'ai une pensée dans le moment, parce qu'Henri Delage était un personnage unique dans le monde du cheval.
Oui, Japlou nous a fait vibrer. Il y a eu un très beau film, d'ailleurs, qui a été réalisé avec Guillaume Canet, me semble-t-il, comme cavalier.
C'est exactement ça.
C'est ça. Donc, tu es président, Bernard, depuis récemment, si j'ai bien compris.
Février, c'est tout récent. Je suis nouveau promu. Même si je n'ai pas l'air très jeune, je suis tout nouveau.
Donc, nous allons revenir sur cette passion du cheval, sur cette passion de la société hippique de la Réole. Entre-temps, on va passer un premier morceau de musique. Alors, j'aimerais parler d'une région qui s'appelle la Savoie, mais je sais qu'en Savoie, on a l'habitude de dire la Haute-Savoie et la Savoie. Il y en a deux. Moi, je dis, il n'y a qu'une Savoie, c'est les Savoies au pluriel. Elle se prénomme Gisèle Mileto, elle est auteur, elle interprète, auteur-interprète. Ses chansons, c'est un slam, et la musique est de j'ai oublié de qui était la musique, mais Jackie Regan a fait la musique, donc il est auteur musical de la musique de cette chanson, le piano blanc, qui nous vient des deux Savoies. Allez, Gisèle Mileto, le piano blanc. Jackie Regan.
Tu connaissais tous les refrains des 60s et des années 80. Tu chantais la montagne en précisant que nous, Savoyards, nous devions connaître les paroles à la perfection. Bien sûr, la montagne est si belle et nos paroles se noyaient dans ce doux décor feutré. Nous reprenions en cœur la montagne avec un brin de nostalgie et les étoiles scintillaient dans nos cœurs d'une extrême douceur, un peu à la façon d'une étoile des neiges. Personne ignore ceci, l'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en partant. C'était l'époque du piano blanc, cela fera bientôt 10 ans. L'on se réunissait tous les samedis soirs chez toi et nous chantions les tubes des 60s et des années 80. Je ne pouvais retenir mes larmes, tu m'interrogeais sur ma secrète nostalgie. Nous adorions cette chanson, Lorette. Elle nous transportait bien au-delà du temps, puis nous terminions notre soirée comme à l'habitude en reprenant « Mon vieux » où je devinais quelques larmes discrètes couler le long de tes joues. Aujourd'hui, quand je me remémore tous ces moments révolus et que je pense à toi, toi, notre tendre ami disparu, je me dis que notre Lorette à nous, c'était nos samedis réunis autour d'un piano blanc. Avant que tu ne décides de prendre un billet sans retour vers les étoiles. Mais on ne devrait jamais s'attacher aux gens, car il arrive toujours un moment où injustement on nous les reprend. Depuis ton départ, mes larmes prennent alors une toute autre signification, celle du reflet de nos souvenirs où notre Lorette se trouve soudainement orpheline. C'était l'époque du piano blanc, cela fera bientôt 10 ans. L'on se réunissait tous les samedis soirs chez toi et nous chantions les tubes des 60s et des années 80. Je ne pouvais retenir mes larmes, tu m'interrogeais sur ma secrète nostalgie. Nous adorions cette chanson, elle nous transportait bien au-delà du temps. Puis, nous terminions notre soirée comme à l'habitude en reprenant « Mon vieux » où je devinais quelques larmes discrètes couler le long de tes joues. Nous ignorions ce soir-là que c'était notre dernier Noël, nos dernières soirées et surtout nos derniers samedis tous réunis. Nous chantions et dansions autour d'un piano blanc qui nous inspirait les refrains de ces années-là où ta photo posée sur le piano, désormais jaunie, nous sourira à tout jamais. De tous ces instants désarmants, il nous reste dorénavant ce vieux piano blanc silencieux et poussiéreux que je n'ose parcourir dans l'inquiétude de voir ton visage s'évanouir sur notre dernière note de musique, le soupir.
Une musique de Jackie Regan, je le précise, et les paroles, et une chanson de Ghislaine Mileto. Donc nous sommes réunis aujourd'hui en direct sur l'émission C'est beau, c'est bon, 98.4, avec Esther, avec Bernard, dont nous venons parler de la société hippique de la Réole. Et nous allons changer d'animaux et nous allons partir vers le nord du Médoc et à l'estuaire de la Gironde, puisque nous allons nous arrêter dans une appellation d'origine protégée, qui a deux appellations d'ailleurs, puisqu'il y a le vin, le Pauillac, mais il y a également l'agneau de Pauillac. Cet agneau, c'est une tradition. Alors j'ai Armel avec moi et François. Bonjour Armel, bonjour François.
Bonjour Gérard.
Cette tradition donc fait que le 5 juin, si j'ai bien compris, il y allait y avoir la fête de l'agneau de Pauillac avec Jean-Luc Moll, le cuisinier étoilé, le cuisinier de Bordeaux, un garçon absolument délicieux. Et cette tradition date du XIIIe siècle, rendez-vous compte. Ouais. Depuis le XIIIe siècle, il y a une tradition de l'agneau de Pauillac, et cette viande absolument exceptionnelle s'adresse à tous les amateurs. Donc j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur cette manifestation, sur ce fait que vous êtes présidente de l'association, Armel.
Oui, tout à fait, depuis 7 ans.
Depuis 7 ans.
7 ou 8 ans.
Il y a combien d'adhérents ?
Une trentaine maintenant.
J'ai eu l'occasion de vous rencontrer la semaine dernière et nous en avons discuté. J'aime beaucoup ce que vous faites parce que vous êtes comme Bernard dans la tradition. Et la tradition est la transmission. Mais dans la vie d'un pays, des habitudes, il y a des bonnes et des mauvaises traditions. Et vous sauvegardez les bonnes traditions. Et ça, c'est important. Mmh. Donc depuis le XIIIe siècle, l'agneau de Pauillac, 75 jours élevé sous la maman, élevé en bergerie, bien
tout
entendu,
à fait.
Dans des conditions respectables et respectées, je le dis, parce que certaines personnes, quand on parle de viande de boucherie, pourraient se courroucer. Eh bien non, il y a encore des producteurs, et je crois qu'il en reste combien maintenant ?
Oh, sur le Médoc, il doit y en avoir 4 ou 5.
4 ou 5. Alors expliquez-nous un petit peu le bien fondé de cette manifestation et la tradition de l'agneau de Pauillac, qui fleurit bien entendu sur les cartes des très bons restaurants.
Bon, cette association, elle doit avoir 24 ans à peu près d'ancienneté. Elle a été créée en 1999. Pour ma part, j'ai repris la présidence il y a 8 ans, en étant passé au poste de secrétaire pendant un an ou deux pour remplacer un ami qui s'appelait Mingo Reyes, qui avait un élevage d'agneaux d'ailleurs sur Pauillac, qu'il a arrêté. Maintenant, il fait de l'élevage de bovins. De viande de boucherie, et il souhaitait donc arrêter cette présidence. J'ai pris le relais, et puis avec une équipe nouvelle, nous avons refondu un petit peu cette association. Et tous les ans, pour Pentecôte, nous faisons la fête de l'agneau sur les quais de Pauillac, à l'exception des deux années précédentes, pour les raisons qu'on connaît. Donc cette année, nous sommes encore plus motivés que d'habitude, puisque ça, 2 ans de repos, on va y aller à fond. Et nous allons faire cette manifestation sur les quais, avec la participation des éleveurs girondins qui ont l'IGP, qui commercialisent l'agneau de Pauillac, qui sont
donc
présents.
IGP, indication géographique protégée.
Tout à fait. Et qui seront présents sur la fête de l'agneau, qui feront des grillades d'agneau, bien sûr, pour faire déguster au public. Il y a également un marché gourmand. Nous essayons au niveau de l'asso de faire venir des producteurs. Mais chaque producteur, si tu veux, ne représente qu'un produit. Pour éviter de la concurrence. Voilà. On fait venir également un marché artisanal. On y fait des animations, puisque pour la troisième fois, je fais revenir la force basque de Briscousse, des gars très dynamiques qui mettent le feu sur la fête.
Bien sûr, j'imagine.
Oui, tout à fait. Et pendant le repas, ce sont des repas en plein air où le public peut venir déguster les côtes d'agneau. Ils animent toute cette journée. Il y a également une mini transhumance au départ des quais jusqu'à l'église de Pauillac. Et cette transhumance, elle est conduite par Cédric Pérez, qui fait partie des éleveurs du Médoc. Il est basé à Saint-Isan-de-Médoc.
Oui, parce qu'avant, si j'ai bien compris, avant c'était de... Alors, ces agneaux, leur papa, leur maman, bien entendu, sont de race noble et venaient des Pyrénées.
Tout à fait.
Expliquez-nous un petit peu l'origine de cette transhumance par les Pyrénées.
Alors, les bergers, d'après ce que j'en sais, amenaient leur bétail, enfin leurs agneaux, sur les terres médocaines, dans les vignes, pour brouter l'herbe pendant toute une période. Et puis à la fin, et après, ils repartaient sur leurs terres.
C'était le désherbant.
Oui, c'était ça, oui,
c'était,
tout à fait.
C'était mieux que les produits chimiques.
Tout à fait. Donc il y a plusieurs races de brebis, je les ai pas en tête, mais il y a deux ou trois races.
Oui, c'est des races nobles, puis
oui,
les aussi
y a
bien
deux ou trois races de brebis qui sont utilisées
et qui deviennent donc régaler les papilles.
Voilà, Cédric a un troupeau de 562 brebis. Il élève des agneaux donc qui sont commercialisés par les éleveurs girondins. Il est au conseil d'administration des éleveurs girondins. Là, il a innové un petit peu. Là, depuis un an, il s'est mis à fabriquer du fromage de brebis. Il a ouvert
en plus
une boutique là récemment, il y a trois mois.
À Pauillac, toujours
À Saint-Isan-de-Médoc.
Saint-Isan-de-Médoc.
Pour Pauillac-Saint-Isan, c'est 20 minutes de route.
Hein, oui, bien sûr.
Voilà, et ça marche très bien, et son fromage est excellent.
Il fait du fromage façon Pyrénées, en fait, si j'ai
compris. Oui, tout à fait, façon Pyrénées.
D'accord, un peu comme l'osso irati, enfin comme je dis bien, mais attention, ça n'est pas de l'osso irati.
C'est pas de l'osso irati.
Nous ne sommes pas dans la zone d'appellation protégée de l'osso irati.
Tout à fait, c'est du fromage de brebis du Médoc, de Saint-Isan-de-Médoc, et qui est excellent.
D'accord, donc il est affiné pendant plusieurs mois.
Il est affiné, ce qu'il commercialise à l'heure actuelle, il est affiné pendant 4 mois.
120 jours, donc.
Ouais.
120 jours d'affinage. Donc sachez que le fromage vieillit dans un endroit qui s'appelle une fruitière. La fruitière, c'est là où mûrit le fromage. Et ben, écoutez, je suis très heureux et nous sommes très heureux à la radio de l'Entre-deux-Mers de vous recevoir et de vous donner la parole.
Je voulais juste poser une question à la dame. C'est bien le groupement des éleveurs girondins
qui feront les grillades d'agneau, oui, sur la fête de l'agneau.
Le groupement des éleveurs girondins, c'est né à Gironde-sur-Dreau.
Oui, le siège est à Gironde-sur-Dreau.
Voilà, c'est ça. Et je te signale, Gérard, qu'ils ont construit pour, je sais plus combien de millions d'euros, leur propre abattoir à Bordeaux.
Tout à fait.
Où ils abattent que leurs bêtes.
Oui, exact. Et ils ont des boucheries, entre autres la boucherie de la métropole à Mérignac.
D'accord.
Qui elle nous fournit, quand on a d'autres manifestations, qui nous fournit les agneaux.
D'accord, très bien.
Voilà. Il y a également une boucherie des éleveurs girondins à Gaillard-Médoc, c'est à côté de l'Espard, pareil, qui fournit les particuliers.
Nous saluons le nord du Médoc. J'ai des amis, moi, à Couquec.
À Couquec, moi aussi. J'ai des amis à Couquec. J'ai Fabrice... qui tient le Saint-Sébastien, le cabaret.
Le cabaret mondialement connu.
C'est un excellent ami. Et il vient tous les ans, il vient déjeuner avec nous sur la fête de l'agneau.
Et moi, je salue une famille de viticulteurs, Jean Boisvert qui n'est plus là.
Je connais aussi Boisvert.
Hélène Boisvert, les Ormes Sorbet.
Tout à fait.
Une propriété remarquable en plein cœur du Médoc, dans un village. Il faut savoir que Couquec, alors on ne dérape pas, mais on est sur le nord du Médoc, Couquec n'existait pas. Et après la Révolution, c'est l'intégralité des producteurs de vin. Il y avait 170 ou 175 habitants qui ont décidé de construire une église, de construire une école pour en faire un village qui n'existait pas, qui appartenait, qui était un lieu dit Couqueque.
Comment on dit Couqueque.
Oui.
Oui, c'est ça.
Couqueque. Et donc c'est les habitants du village qui ont financé la naissance d'un village juste après la Révolution française dans la deuxième moitié du 19e siècle.
Il y a toujours très peu d'habitants. Hein. Je crois qu'il y a 180 habitants.
Oui. En tous les cas, les Ormes Sorbet à consommer avec modération quand nous parlons d'alcool. Donc cette viande d'agneau est très particulière, puisque je le disais, les agnelets sont élevés 75 jours avant d'être utilisés en viande de boucherie, en fait.
Ah oui, ils ne vont pas du tout à l'extérieur, ils ne vont pas brouter d'herbe.
Exactement.
C'est uniquement élevé sous la mer.
Ce ne sont pas des broutards, ils sont élevés en IGP, c'est-à-dire indication géographique protégée, uniquement en bergerie.
Oui, et particularité, l'agneau de Pauillac ne doit pas dépasser 15 kilos.
Exactement. Et quand on vient de boucherie, ils font entre 12 et 15 kilos, en fait.
Voilà, tout à fait.
À peu près, c'est à peu près le poids moyen d'un agneau de cette race-là, de cet âge-là. Alors, je sais que certaines personnes sont courroucées parce que nous parlons de viande, nous parlons de... Ben, écoutez, il y a des gens qui mangent de la viande, il y en a qui mangent des légumes, il y a des véganes, il y a des végétariens.
Oui.
Nous sommes là pour respecter toutes les volontés, mais les protéines, on va les chercher dans le poisson, dans la viande. Et nous ne parlons pas d'abattage, nous parlons tout simplement d'animaux qui sont élevés pour cela, et voilà.
Et sur la fête, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui ne veulent pas manger d'agneau, parce qu'après tout, ils peuvent venir à la manifestation, mais il y a des dégustations d'huîtres, il y a les escargots... Les cagouilles du Médoc, à la Bordelaise, il y a... quoi dire, ben, le fromage de Cédric qui sera présent.
Est-ce qu'il y a du vin?
C'est évident.
Du vin de Pauillac.
Pauillac et les alentours.
Pauillac, bien entendu. Alors, voilà. Nous sommes dans le nord du Médoc, hein, je le précise,
oui.
À l'estuaire, pas très loin de Margaux, pas très loin de toutes ces appellations, de Moulis, au Médoc, c'est plus près de Bordeaux, mais le Médoc profond, c'est bien Pauillac.
Oui. Et cette année, enfin, pour la deuxième fois, nous innovons sur cette manifestation. Nous faisons un atelier des chefs avec une démonstration de cuisine tout au long de la journée. Cette manifestation est animée par Jean-Luc Moll,
dont j'ai parlé tout à l'heure.
Voilà, qui est un ami et qui a le restaurant Les Criquets et l'école de cuisine à Blanquefort.
Oui, Les Criquets.
Voilà. Comme parraine de cette manifestation, nous avons Stéphane Carade, qui est le chef doublement étoilé, qui a le skiff au Pilat, qui sera présent et qui fera lui aussi une démonstration de cuisine, comme il a fait il y a 2 ans. Un gars très sympathique et qui se plaît à Pauillac.
Qui a la tête dans les étoiles et les pieds sur terre.
Voilà, il sera accompagné d'Oksana Rama, qui a le Cro-Magnon à Bordeaux, qui est déjà venu il y a 3 ans aussi, nous faire une démonstration de cuisine. De Jean-Luc Beaufils, qui avait le restaurant Le Douanier, Saint-Christoli.
Oui, Saint-Christoli, oui.
Voilà. Il y aura Giovanni, qui est le chef étoilé du Tantasion aussi, qui est...
Chef étoilé de ?
Du Tantasion.
Oui.
À Bordeaux. Il y aura le chef des Criquets, Gouget, il s'appelle, je crois, Alexandre Gouget.
Alexandre Gouget,
voilà.
Oui.
On attend la réponse de Thibaut Martin, le chef de...
HMS ?
Non, de Bouliac, du Saint-James.
Ah, le Saint-James.
En espérant qu'il pourra se libérer.
Ex-Jean-Marie Amat.
Voilà.
Le Saint-James.
Que j'ai bien connu aussi. Donc là, on va organiser ça avec Jean-Luc, mais tout au long de la journée, il y aura des démonstrations de cuisine, avec également des battles de chefs. Et pour accompagner la cuisine d'agneau, il y aura forcément un château qui sera présent avec chaque chef.
Avec chaque recette, avec
chaque recette, spécialité. Dégustation après de petites verrines, et bien sûr découvrir le vin du château en question.
D'accord, ça c'est une très très bonne idée. À quelle heure ça commence le matin ?
Le matin, ça va commencer vers 10h30, 11h.
Oui.
Et puis ça va se poursuivre jusqu'à 18h au niveau de l'atelier des chefs.
Donc l'atelier des chefs, vous l'avez entendu, étoilés, la tête dans les étoiles, les pieds bien ancrés dans le sol. L'agneau de Pauillac, une tradition. Alors il existe quelques agneaux en France, hein. Il y a l'agneau de Sisteron, il y a l'agneau du Mont-Saint-Michel, l'agneau des Charentes, qui est également en indication géographique protégée. Ils sont tous différents, on peut parler de viande de boucherie comme on parle de terroir de vin. En fonction de la race de l'animal, eh bien, le goût de la viande n'est pas la même, la texture de la viande n'est pas la même et les cuissons sont toujours à respecter de façon horlogère, comme dirait Victor Hugo quand il habitait Besançon. Toujours est-il que l'agneau est une viande exceptionnellement bonne. L'agneau de Pauillac est vendu... Quel est le prix moyen d'un kilo de viande ?
Chez le boucher classique, oui, traditionnel ?
Je parle au public.
Au public, ça doit se vendre autour de 22-23 euros, je pense.
22-23 euros pour des morceaux de première catégorie,
c'est-à-dire le gigot,
les côtes premières, les côtes secondes, les côtes découvertes. Donc après, ça dépend. On peut faire un ragoût aussi. On peut faire un navarin d'agneau avec des petits légumes printaniers. Oui. Qu'est-ce que c'est bon. Un navarin d'agneau qui mijote pendant 45 minutes dans un four avec des légumes verts, des légumes de printemps, des légumes de saison. C'est une tuerie.
Je vois que tu apprécies la bonne gastronomie. Hein.
Moi, j'aime les bonnes choses quand on respecte de l'élevage, enfin de la naissance à la cuisine. Quand un cuisinier ne sait pas cuisiner la viande ou les légumes, c'est pas la peine de le tuer une deuxième fois, ce petit agneau. Tu es accompagné, Armel, avec François. François, que fais-tu au sein de cette association ? Approche-toi du micro, mon grand.
Moi, pour la fête de l'agneau, bon, je suis déjà le trésorier.
C'est bien.
Et pour la fête de l'agneau, je m'occupe des grillades. Comme la semaine dernière, on était à Lussac, près de Saint-Émilion, et on avait fait des repas complets de grillades pour les rouleurs de barriques.
Exactement, la dernière association.
Leur 30e anniversaire.
Ouais, leur 30e anniversaire. Alors, ces grillades, comment cela s'est-il passé ?
Très bien, on fait une bonne braise et on les fait griller tranquillement. Il ne faut surtout pas les faire griller.
Voilà. Il ne faut surtout pas que ce soit ferré, comme on dit. Il ne faut pas que ce soit brûlé. Il faut que ce soit agréable, respecté. Parce que n'oubliez pas que la viande, c'est un muscle. Que ce muscle doit être respecté. Voilà. Et que la cuisson doit être juste et parfaite. C'est-à-dire à point, entre saignant et à point pour l'agneau.
Voilà. Et on pense avoir réussi. Parce que...
Ben, au dire de ceux qui ont participé, j'étais présent mais je n'ai pas mangé, c'était fabuleux. J'ai mangé la veille, mais c'était le couscous.
Voilà.
Non, c'était la paella.
La paella.
Donc, une spécialité espagnole qu'aime bien Esther, Cordacian, Cordobar, Cordocou, Panama, Guatemala, les Caraïbes.
Cortazar, ça suffira.
Non, parce qu'elle a le nom de famille d'un général qu'on trouve dans un Tintin.
Un écrivain aussi, non mais...
Hélène Cotcheval, magnifique. C'est pour ça qu'elle a invité Bernard aujourd'hui du Club Hippique. Nous allons revenir sur le Club Hippique et nous allons entendre un deuxième morceau de chanson. J'ai tenu à rendre un hommage à cette dame qui nous a quittés, cette dame de la nuit. Régine, la grande Zoé. Alors je l'avais croisée dans les studios de TF1. C'était au studio 107 il y a une dizaine d'années et je lui avais fait une mauvaise blague. Elle était en colère parce que je lui avais dit qu'il fallait qu'elle arrête de se faire tendre la peau parce que quand elle allait avoir ses périodes, elle allait saigner du nez. Elle m'a dit « Toi, t'es gonflé ». Elle avait son franc-parler, c'était une femme exceptionnelle. Régine. Allez, on pense à toi. Il y a une étoile qui brille dans le ciel. Eh bien, ça fera une de plus. Tu vas enchanter les anges avec tes chansons et surtout tes petits papiers.
Et les élastiques ont pété.
Quand vient le mardi, la grande Zoa met ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande Zoa autour du cou se met un... Y'en a qui marmonnent que la grande Zoa, ce serait un homme, on dit ça.
Y'en a qui marmonnent que la grande Zoa, ce serait un homme, on dit ça.
Dans sa Rolls blanche, elle s'en va place blanche, dans des nightclubs ou dans des pubs. Aussitôt qu'elle entre, elle devient le centre des conversations entre garçons. Comme elle est bizarre, quelle allure elle a, et ce grand foulard, oh, mais c'est un boa.
Comme elle est bizarre, quelle allure elle a, et ce grand foulard, oh, mais c'est un boa.
Si de toute la semaine on ne la voit plus, elle n'a tout de même pas disparu. Saint-Père, décorateur et antiquaire, en complet veston, plein de décorations, elle vend du Louis XVI avec des yeux de braise. Mais quand vient le mardi, la grande Zoa met ses bijoux, ses chinchillas, et puis à minuit, la grande Zoa. Autour du cours, mais son boa. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on a parfois honte quand elle se maquille.
Il y en a qui racontent que dans sa famille, on a parfois honte quand elle se maquille.
Elle va chez Henri pour boire un coca et demande un whisky pour son boa. Quand il est très tard, rentrer, fumant un cigare à grosse bouffée. On n'a jamais su qui était Zoa. Elle fut manger crue par son bar. Elle fut manger crue par son bar.
On n'a jamais su qui était Zoa. Elle fut manger crue par son bar.
Elle fut manger crue.
Je précise que les bonnes blagues sont celles de monsieur le président de cette radio associative de l'Entre-deux-Mers que j'ai prénommé Francis et nommé Virepinte. Il a un humour corrosif, il a un humour décapant, et si vous avez besoin de produits pour décaper vos cuivres, pour décaper, vous prenez un petit morceau de Francis, vous le mettez dans le torchon, vous frottez. Vous allez voir, ça part tout seul. N'est-ce pas, Francis?
Oui, et ça fait un flan pâtissier.
Nous avons parlé de Jérôme Surdrop et je voudrais remercier Marc Saurin. Je viens de déguster qu'on prénomme Marco à Jérôme Surdrop. Il a la boulangerie-pâtisserie. C'est un boulanger exceptionnel qui travaille des cépages de céréales et qui fait du pain remarquable. Et surtout un flan pâtissier que je viens de déguster. Il y a fort longtemps, mon petit Marco, que je n'avais pas goûté un flan pâtissier de cette qualité-là. On sent bien la crème, on sent bien les œufs, on sent bien le lait, on sent bien tout. Et la cuisson était parfaite, alors que généralement, quand on achète un flan, on dirait un morceau de cellulite. Là, c'était vraiment une belle texture, c'était vraiment très, très, très agréable. Nous avons commencé cette émission avec Bernard Bouchon, qui vieillit très bien d'ailleurs.
Merci.
Il a une tête, il ressemble à Paul Watson.
On ne l'avait pas encore fait, mais pourquoi pas.
On connaît Paul. Paul Watson,
j'avais
voilà.
J'avais déjà entendu Victor Hugo, j'avais des choses comme ça, mais pas...
Ah, je ne sais pas ce que tu fais avec tes mains, mais Victor Hugo était un petit branleur, hein, il faut le savoir. Hein,
il y avait longtemps, c'est pas possible.
Ah ben, il paraît qu'il tirait plus vite que son ombre. Et ça, c'est la réputation qu'il avait. Moi, qui suis de la région de Besançon, je sais de quoi je parle. Donc, non, mais Paul Watson, qui a créé une association qui s'appelle Sea Shepherd, et qui défend les animaux marins dans le monde entier, c'est un Canadien, qui est réfugié en France parce que tout le monde le recherche. Avec ses bateaux, il fonce carrément sur les baleiniers chinois, sur les baleiniers japonais. Sea Shepherd, il avait créé une association avant qui s'appelait, je ne sais plus comment. Bref.
Il pourrait foncer sur Poutine, hein.
Oh putain, on ne parle pas.
Joker,
même une pensée très forte pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui souffrent, parce que ça, c'est pas tolérable. Nous ne pouvons pas l'accepter au nom de la liberté d'expression et au nom de la liberté tout court. Les Ukrainiennes et les Ukrainiens, les parents, les enfants ont le droit de vivre et n'ont pas le droit de recevoir des bombes comme ils le reçoivent et de souffrir comme ils souffrent. Ça, c'est vraiment... cette poutinisation est horrible. Bref, on ne va pas parler politique parce que c'est trop compliqué. On va continuer de parler de chevaux. Et ça, c'est beaucoup plus malin, beaucoup plus intelligent. Parce qu'il y a un film que je me rappellerai toujours, c'est L'homme qui parlait à l'oreille des chevaux.
Robert Redford.
Je l'ai vu, oui.
Oui.
Robert Redford, un bel homme. Jack Lang dirait, quel bel homme.
Tout à fait.
Est-ce que un cheval comprend des mots? Combien et comment fait-on pour pouvoir dialoguer avec un cheval? Parce que là, c'est une complicité, puisqu'on ne parle pas de chevaux de course d'argent, on parle de chevaux de course hippiques.
Mmh.
Comment fait-on pour instruire le cheval pour que quand il arrive au pied d'un obstacle, eh bien, il sache quelle est la hauteur, comment il faut faire? Et cette complicité, bien entendu, elle est liée au cavalier ou à la cavalière.
L'osmose entre l'homme et le cheval est quelque chose qui a du mal à être défini avec des mots. Je crois que cette complicité dont vous parlez est quelque chose d'inné. Il y a des gens qui sont faits pour vivre avec les animaux, d'autres qui n'ont rien à faire avec les animaux parce que hormis un regard qu'ils ont, ils n'ont pas ce sens intuitif qui fait qu'il peut y avoir osmose.
Osmose et complicité.
Et complicité.
L'équithérapie, connais-tu cela ?
Oui.
Qu'en penses-tu ?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a sans aucun doute des médecines parallèles qui sont très efficaces pour aussi bien l'être humain que pour le cheval.
Dans les deux sens ?
Dans les deux sens.
C'est-à-dire que le cheval peut être utile à l'homme et l'homme peut être utile au cheval ?
Je crois.
Je le pense, moi, très sincèrement, et je le crois aussi. Et comment fait-on pour se rendre compte de cette complicité quand elle est... Quand elle est spontanée, je dirais... Moi, j'ai eu le coup de foudre pour Voici, ce cheval dont je te parlais tout à l'heure. C'est un coup de foudre, mais réciproque. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Comment explique-t-on un coup de foudre entre un être humain et un animal qui ne peuvent communiquer qu'avec des gestes et limités par rapport à l'animal ?
Je crois, de plus en plus en vieillissant, qu'il y a dans chacun de nous une part qui est une part très cartésienne. Et à côté de ça, il y a des choses qui nous paraissent surnaturelles parfois, mais qui sont cette capacité que chacun peut avoir, plus ou moins, à être par... les hommes entre eux, on parle parfois de magnétisme.
Oui.
De relations qui peuvent se faire par magnétisme. Avec l'animal, je ne suis pas sûr que ce soit du magnétisme, mais il y a cette espèce de considération...
Et de respect mutuel.
Et de respect mutuel qui rentre dans une confidence que l'on ne peut pas définir et pour laquelle il n'y a pas d'explication matérielle. C'est au-delà du matériel qu'il peut y avoir ou ne pas y avoir une relation entre un homme et un animal, au-delà du cheval d'ailleurs.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce serait le cinquième sens de chacun, autant de l'homme que de l'animal ?
Là, lui a soulevé un problème métaphysique.
Parce que, c'est ça.
Non, mais on le dit souvent, les animaux se rapprochent des gens qui aiment les animaux. Ils ne vont pas s'approcher
bien
des
sûr,
gens qui n'aiment pas les animaux. Donc je pense qu'il y a ce système de cinquième sens. Moi, un cheval, moi je sais que si je tends ma main, le cheval, il viendra toujours vers moi. Pourquoi, je ne sais pas.
T'as une queue de cheval.
Au-delà du cheval, on peut considérer parfois que s'il y a une tablée d'êtres humains et un chien qui se promène.
Il vient me voir.
Curieusement,
aussi. Ouais, c'est ça.
Le chien ne va pas s'adresser
exactement
de la même manière à toutes les personnes de
absolument
la table.
Ouais,
il y a une considération d'instinct qui fait que l'animal va aller vers globalement l'homme qui aime ou la femme qui aime l'animal.
Ça je le vois parce que avec les toutous, je suis un peu fou.
Je confirme.
Je suis un peu fou. Et moi, dès que je me balade et que je vois des chiens, il faut que je m'approche. Et les gens me disent, mais attendez, Non. J'y vais avec la main devant et des bisous, des câlins. Et les gens sont assez surpris de dire, mais il n'est pas comme ça d'habitude. Qu'est-ce que vous... Je dis, je fais rien, j'aime les chiens, c'est tout. Et j'aime les animaux en règle générale. Tous les animaux. Moi, je mange de la viande aussi, hein, mais je veux dire, j'aime les animaux. Mais le cheval m'a toujours fait peur parce que c'est quand même 600 ou 700 kilos. Quand on voit un bœuf, c'est pareil. Quand je fais les bœufs gras de Baraqueville, c'est pas évident. Quand vous êtes devant une bête qui fait une tonne 2, une tonne 3, on a tendance à la respecter.
Avec une variante quand même entre l'animal équin et l'animal bovin, que l'équin, au travers des siècles, il y a sur le cheval un côté grégaire qui fait que cet animal-là a toujours été l'animal le plus proche de l'homme. Au travers des siècles, c'est quand même le cheval qui a été aujourd'hui l'ami de l'homme pour ses plaisirs, mais il a été aussi l'ami de l'homme pour la guerre, puisqu'on parlait de l'Ukraine tout à l'heure. C'est quand même le cheval qui a été, pendant des siècles, l'outil porteur de l'être humain pour aller faire la guerre.
Bien sûr.
Pour l'agriculture.
Pour l'agriculture aussi.
Alors là, que penses-tu de la renaissance de l'utilisation des chevaux ? Est-ce que ce n'est pas une bobotitude parisienne, ça, d'utiliser des chevaux pour aller labourer dans les vignes ? Moi, je me pose des questions.
On en a, là, dans le Médoc, dans quelques châteaux. Je pense que c'est un petit peu folklorique,
moi. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça, parce que c'est juste dans les grands châteaux, juste pour donner une belle image.
Oui, oui. Qu'est-ce que tu en penses, Bernard ?
Personnellement, je n'ai rien contre le fait qu'on utilise le cheval à des fins de traction. Pourquoi pas ? Mais il y a là derrière, aujourd'hui, des notions de rentabilité
qui et, de
peuvent être, et de marketing qui peuvent être exprimées dans certaines régions où l'on vend des pépites. Mais je vois mal le cœur de l'entre-deux-mer demain, à 700 euros le tonneau, faire de la traction animale pour faire du travail d'instruments aratoires en viticulture.
Non, tu l'as bien dit, Bernard, et merci de ta franchise et merci de ta clairvoyance et de la générosité de tes propos.
Ah, moi, je vais rajouter un truc. C'est que de façade, tu vois le cheval dans les vignes. Par contre, tu vois les hélicoptères qui tournent pour le gel.
Oui, mais ça, c'est comme les roses. Hein,
à 250 euros de l'heure, voilà. Donc,
combien ?
250 euros de l'heure.
L'hélicoptère, t'es loin du compte.
Oh, là, très loin. Il faut multiplier par 6.
Ça dépend.
C'est 4280 euros hors taxe de l'heure.
Oh.
Exactement.
4000. Bah, tu vois, j'étais très très loin. Mais voilà, donc.
Non, c'était les 10 minutes, toi, quand tu fais.
Ouais, ça doit être ça. C'est le saut depuis l'hélico.
Avant de poser le micro, je voudrais quand même traduire tout le plaisir que j'ai d'être à côté de gens qui ont fait perdurer l'appellation agneau de Pauillac, parce que c'est quand même très difficile. L'élevage et l'élevage de moutons à Pauillac, ce n'est pas une chose simple. Et je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui, pour moi, a été l'ambassadeur de l'agneau de Pauillac et qui a été à la fois l'ambassadeur de l'agneau de Pauillac et l'homme qui a su faire l'association vin et agneau de Pauillac. C'est quelqu'un qui avait le lion d'or à Arsène, qui s'appelait Barbier, et qui était l'homme le plus remarquable que je connaisse pour faire l'association des vins et de l'agneau de Pauillac.
Ah, c'était voilà. Une figure. Donc,
voilà, je tiens à profiter de cet instant pour dire que
merci
Pauillac
Bernard.
Du XXe siècle doit un grand merci à M. Barbier.
Je connais bien Jean-Paul, et lorsque je le verrai, je lui transmettrai cette amitié.
Oui.
Nous allons écouter un troisième morceau de musique après Ghislaine Milletto, après Régine. Eh bien, nous allons. Ça fait 30 ans qu'elle nous a quittés, qu'elle a décidé de nous quitter. Elle était d'origine égyptienne, c'était Miss Égypte. Elle était petite, elle n'était pas grande. Elle chantait admirablement bien. Elle se prénommait Dalida. Et une chanson qui l'image bien, Laissez-nous danser. Elle dansait à cette époque-là avec François Mitterrand.
Ouais, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps.
une heure, ça passe vite, ça passe trop vite. Je vais laisser la parole à Esther qui a beaucoup de choses à nous dire. Ma petite Esther, c'est à toi.
Alors moi, il va falloir que j'aille vite parce que le président ne m'a pas laissé beaucoup de temps. Du coup, moi, je voulais vous parler du point info vacances qui se situe à l'espace de vie sociale de Solid Avenir. Donc, je voudrais rappeler aux personnes allocataires de la CAF et de la MSA que nous avons la chance d'avoir une caisse d'allocation familiale de la Gironde qui a une politique vacances et qui permet aux gens d'avoir des aides pour partir en vacances. Donc n'hésitez pas à contacter Solid Avenir au 05 56 61 13 23 ou au 06 30 23, ben voilà, je l'ai mangé, 06 50
23,
non. Je sais plus. Bon, enfin, le 06. Je vous le redonnerai sur le Facebook parce que je l'ai avalé. Je l'utilise tous les jours, mais voilà, donc je l'ai oublié. Savoir que le point info vacances vous permet d'organiser vos séjours vacances à des tarifs solidaires parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour les seniors également. Donc, si vous êtes senior, vous pouvez partir en vacances à tarifs solidaires. Oui, GG pour toi, par exemple, mais tu n'auras pas l'aide de l'ANCV, qui est notre partenaire, voilà, parce que toi, tu gagnes trop de sous.
Les chèques vacances.
Les chèques vacances, l'Agence nationale des chèques vacances. Dire aussi que cela permet aussi à des enfants qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances, via le système de colonies, de partir en vacances à tarifs solidaires, pour pouvoir permettre au maximum de gens d'accéder aux vacances. C'est un droit, c'est pas uniquement réservé que pour les gens qui travaillent comme je l'entends au quotidien. C'est quelque chose qui me bouleverse un petit peu. Donc voilà, c'est juste rappeler que le point info vacances est ouvert. Vous pouvez appeler au 05 56 61 13 23 et prendre rendez-vous le lundi et le mardi avec Esther. Donc c'est avec moi. Voilà.
Voilà, on remercie Esther pour ces informations qui sont très importantes. Je voudrais rappeler donc la manifestation du jeudi de l'Ascension.
Le 26 mai.
Bernard... Oui, le 26 mai. Donc Bernard Bouchon, président de la Société Hippique de la Réole. Donc un concours national.
C'est pas un concours national, c'est une course qui engage des chevaux de la France entière.
Ah voilà.
Cette épreuve, Bernard, c'est ça ?
Il y aura sept épreuves à partir de 14h30. Voilà. Il y aura également un déjeuner sur place avec un traiteur local qui essaiera de faire de son mieux pour satisfaire les plus exigeants.
Buvette, sandwich.
On pourra manger du steak à cheval ?
Non.
Peut-être pas du steak à cheval parce que c'est de l'humour qui n'est pas forcément le meilleur ce jour-là.
Oh, je plaisante. Ensuite, le 5 juin, nous avons parlé de Pauillac.
Oui.
Donc, manifestation, Anna Armel.
Oui, tout à fait. Manifestation dès le matin sur les quais de Pauillac, où nous pourrons accueillir le public.
Jusqu'à 17h, 18h.
Oh, jusqu'à 18h, sans problème. Il y aura buvette, bien sûr. Les grillades d'agneau dont j'ai parlé, faites par les éleveurs girondins. Dégustation d'huîtres, des cagouilles la bordelaise, comme tu disais bien.
À la charentaise.
Voilà.
On vous remercie de faire perdurer ces associations. Merci Armel, merci François, merci Bernard, merci Esther. C'était l'émission C'est beau, c'est bon en direct. Vous pouvez la réécouter en différé et en podcast. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Je remercie Francis Virpat, le président de cette radio associative, qui fête ses 40 ans cette année, Francis.
Ouais.
Trois quarts. 40 ans. 39 ans, trois quarts. On vous fait des gros bisous, des gros câlins, on vous aime. C'est la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4. Il n'y en a qu'une et c'est la nôtre et on en est fiers.
Merci.
Comme le vent, et je suis douce.